Et voilà encore une année passée à vos côtés. On prendra le temps avec Julien de faire un bilan un peu plus poussé, mais on peut déjà vous dire que cette année a vraiment été extraordinaire pour nous et on l'espère pour vous. Merci encore de votre soutien qui nous permet d'avancer et de progresser. Je vais pas vous refaire le topo, mais les 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme, par exemple Deezer, d'une part, ça nous fait plaisir et puis surtout ça nous aide au niveau du référencement. Les dons Tipeee, ça nous a permis d'investir notamment dans du matériel pour vous offrir toujours plus de contenu et surtout du contenu de qualité. Pas mal de projets pour cette année 2022, mais on reviendra en détail dessus avec Julien. Maintenant, place à cet épisode de rentrée où j'ai eu la chance de rencontrer Emilien qui a décidé de brasser la bière qu'il aime boire. C'est Sébastien de la brasserie Spo qui m'a parlé de lui. En effet, il a rencontré Emilien au Salon des Vins Nature Brut à Mulhouse et vous allez comprendre pourquoi ça a matché entre les deux. Bienvenue dans Bière et Moustache, le podcast qui parle de bière, mais pas que. Alors aujourd'hui, je suis pas vraiment chez un brasseur ou je sais pas comment on pourrait te définir. Je suis chez Emilien à Illhaeusern.
Ben enchanté. Emilien de la société, enfin la SAS, parce que c'est une société de négoce à la base. Raisin sauvage aujourd'hui. On était deux à l'origine en 2019. On a commencé sous le nom Raisin Sociaux, nom qu'on a dû changer en cours de route parce qu'un Parisien avait déjà déposé la marque. Donc aujourd'hui, Raisin sauvage, commencer une activité de négoce, négociant vinificateur, donc achat de raisin en Alsace et ailleurs. Vinification et mise en bouteille, voilà, classique pour des négociants vinificateurs. 2019, premier millésime, petit millésime, on a fait moins de 4000 bouteilles. 2020, deuxième millésime, un peu moins de 4000 bouteilles aussi. Et ensuite, j'ai signé un hectare de vignes en location en début 2021. Premier millésime sur mes vignes, en diminuant la part de négoce et monter petit à petit la part de vignes, mais en m'arrêtant à 2 hectares et demi grand max. Donc ça, c'est la première partie du job qui est la majeure partie du job. Moi, je suis vigneron, j'ai été attiré beaucoup par, grosso merdo, tout ce qui fermente. Et j'ai expérimenté plusieurs choses qui ont plus ou moins bien réussi. Mais la bière est une des choses que j'ai commencé en 2019 en même temps que mon premier millésime, sous l'influence de brasseries, majeure partie bruxelloise, comme Cantillon, Trois-Fontaines, Tilquin dans une moindre mesure parce que lui ne fait que du négoce, il brasse pas. Mais ouais, sous l'influence et l'impulsion de ces brasseries là, parce qu'en fait j'aimais boire ça tout bêtement, donc essayer de refaire la même chose d'expérimentation après expérimentation, ça donne aujourd'hui des choses qui fonctionnent pas mal, je trouve. À côté de ça, je fais aussi de l'hydromel, du cidre, et systématiquement dans la même philosophie, le même esprit, je ne fais que des vins nature, donc sans aucun intrant. Allez, on va dire œnologique, donc pas de chimie. Et derrière, pas de manipulation technique type filtration, stérilisation, flash pasteurisation, des choses qu'on voit un peu de fleurir sur le marché. Là, surtout pour la flash pasteurisation, après la filtration, ça reste un grand classique sur le vin. Rien de tout ça, et donc même philosophie sur les bières, c'est-à-dire vraiment ce que moi je qualifierais de bière naturelle, c'est-à-dire de l'eau, des céréales et des fruits, quoi. Voilà, pas de levure en sachet et pas de sucre, surtout pas de sucre. Après, j'utilise pas de houblon. Ça c'est plus une volonté personnelle parce que j'ai pas réussi à trouver de houblon bio alsacien déjà en quantité disponible et après en qualité convaincante. Je trouve que c'est trop compliqué à acquérir et vu que je ne travaille que des bières au profil très acide, ce que grosso merdo les anglo-saxons appellent sour beer et que nous ici en Europe on aurait plus tendance à qualifier de gueuse, je suis sur une recherche d'acidité et sur énormément de macération de fruits. Le houblon, j'en ai pas besoin ni pour l'amertume, ni pour sa faculté antiseptique, antioxydante. Le gros du projet, il est là, c'est comme ça que j'ai commencé, et c'est ce que j'arrive à produire, c'est des quantités qui sont ridicules, on va pas se mentir non plus. Je produis, là, l'année dernière, j'ai fait des essais en 2019, j'ai fait quelques essais en 2020, et là, cette année, en 2021, j'ai sorti un peu moins de 1000 litres de bière, donc ça reste pas grand-chose non plus, quoi. Macération de fruits sur quasiment toutes, sauf sur une, et c'est systématiquement des co-fermentations. Bon, je suis vigneron, j'ai des lits, c'est le dépôt issu de la fermentation, voilà, donc c'est majoritairement des levures mortes et vivantes. J'ai ensemencé une bière avec ça, ça m'a donné une blonde, classique, pas de macération de fruits, et après le reste, c'est du cocktail de tout ce que j'arrive à ramasser. Les fruits, c'est uniquement des fruits sauvages, j'ai pas de verger, donc c'est des fruits qui sont glanés sur des arbres en bordure de parcelles, de champs, de rivières, partout. Prunes sauvages, quetsch et cerises. Ma majoritairement, voilà. Après, j'ai essayé plusieurs choses, hein, mais pour l'instant, ça marche bien, voilà.
Et au démarrage, tu faisais un peu de brassin amateur classique ou est-ce que tu as tout de suite démarré en ayant cette envie de faire des bières type gueuse et avec ton procédé qui est quand même assez spécifique en fait? On a l'impression que tu as regardé vraiment les basiques de comment faire un mou et qu'après tout le reste, tu l'as un peu expérimenté au fur et à mesure et que tu n'es pas parti d'une recette classique.
Alors effectivement, j'ai fait un premier brassin très classique en suivant un tuto sur internet tout bêtement. Ça a bien fonctionné, mais je trouvais que le résultat était chiant quoi. Ça manquait de personnalité. Quand tu vois le travail que c'est de travailler donc surtout sans matos, hein, le premier matos que j'ai utilisé pour faire de la bière, c'est une bouteille de gaz, un réchaud, une gamelle de 90 litres. Voilà, c'est tout. Pour rincer et filtrer les drèches. J'ai utilisé un drap de lit, en fait, tout bêtement. Et alors c'était très compliqué, très chiant, et le résultat était terriblement quelconque. Voilà, donc très vite sont arrivées les premières vendanges, et là j'ai essayé d'ensemencer un brassin avec du jus en fermentation, de faire macérer des raisins dedans, d'arrêter d'utiliser des sachets de levure. Le procédé était toujours aussi chiant parce que pas assez de matos, mais là par contre le résultat était vraiment intéressant. Il y avait de l'acidité, la piqûre lactique était là, et on était sur des produits qui me plaisaient en fait tout bêtement. Après les quantités étaient risibles, hein. Moi les premiers brassins que j'ai fait, je les ai élevés en damjane de 25 litres, sans refroidir les moûts, donc j'ai éclaté pas mal de damjane en passant du mou après ébullition direct en damjane. Ça c'était le début, voilà, maintenant j'ai arrêté et je suis sur un process où effectivement je fais un brassin, malt pils classique acheté en Allemagne, donc malt d'orge bio, origine Grand Est, malté à l'art là chez Malzfabrik Eckenstein, de l'autre côté du Rhin, en face d'Erstein. Je prends ça, je prends de l'eau de source, je ne travaille pas avec l'eau du réseau, ça fait chier, c'est compliqué d'aller choper de l'eau à la source, ça se fait à coup de jerrycan de 20 litres, ça prend du temps, il faut porter tout le temps, mais pareil, le résultat me semble plus approprié que d'utiliser l'eau du réseau. Je veux dire que forcément, tout ce que je fais en termes de brassage est définitivement influencé par mon expérience viticole, vitivinicole même. Et non, l'eau du réseau en Alsace, non. Je peux pas, c'est pas possible. Je suis définitivement au courant de ce qui se passe quand tu mets des produits de traitement dans tes vignes, que ce soit des produits pour protéger les champignons, pour tuer les insectes, du désherbant, machin. Tout finit dans la nappe, tout finit dans le réseau. Quand tu veux travailler avec des levures naturelles, il me semblait plus simple pour elle de leur épargner des taux de pesticides et d'insectes. Insecticides et de désherbants, d'exfoliants, de tout ce que tu veux, des taux dans l'eau à crever le plafond. Donc je pense que ça fermente mieux avec une eau où il n'y a pas de saloperie dedans, quoi. Donc eau de source, malt bio, et derrière, macération de fruits, c'est tout. J'ai arrêté donc d'utiliser des levures, du sucre et du houblon. Ensuite, empâtage classique. Derrière, filtration dans des seaux en plastique avec des brewbags achetés sur le net. C'est chiant, mais ça marche bien. Et à moindre coût, parce qu'un brewbag, ça vaut 12 balles, quoi, grosso merdo. Les seaux en plastique, pareil, ça vaut rien, ça vaut 10 balles pièce. Des petits tuyaux. Ensuite, un passage d'ébullition, quand même. Je fais encore de l'ébullition, je pense que les brasseurs vont rigoler, mais ouais, effectivement, je fais 10 à 15 minutes d'ébullition, c'est tout. Histoire de nettoyer, il y a toujours beaucoup de merde qui remonte, donc j'écume beaucoup de merde, je sais pas si c'est une partie de farine et peut-être une partie de levure présente initialement sur l'orge, donc ça j'enlève. Après, j'ai arrêté de refroidir. Parce que oui, effectivement, fut un temps, je m'étais acheté des petits refroidisseurs et tout machin, j'ai arrêté de refroidir. Une fois que je termine le brassin, je coupe le gaz et je laisse la cuve comme ça, je la soutire le lendemain, ça me permet d'enlever toutes les farines qui sont passées au travers des brewbags, et ensuite j'entonne en barrique et je mets un levain que je fais moi-même avec macération d'orge et d'eau. Donc oui, tout est influencé par la vinif. C'est pas des process qui sont, on va dire, très classiques pour un brasseur, quoi.
Mais du coup, tu te définis plus comme un vigneron, comme un brasseur, ou encore un quelque part entre les deux, ou est-ce que tu as vraiment deux casquettes? Quand tu fais du vin, t'es vigny, et quand tu fais de la bière, ben, t'es brasseur.
Je pense que, bon, après, de toute façon, le travail à la vigne me définit naturellement comme étant vigneron, c'est le gros de mon activité. Après, je me définirais pas en tant que brasseur ou vigneron en cave. Je fais fermenter. Voilà, c'est la fermentation qui m'intéresse, l'interaction entre les levures, les bactéries. Oui, non, est-ce que t'en mets? Oui, non. Je fuis la brette, alors qu'il y a énormément de brasseurs qui la recherchent, qui l'achètent même, qui les cultivent. Moi, la brette, c'est un cauchemar pour moi au niveau du vin, donc j'en veux pas sur la bière. Et de toute façon, vu les profils de bière que je fais, gueuse, t'es plus sur des piqûres lactiques, donc des piqûres issues de bactéries lactiques, que sur des attaques de Brett, voilà, moi ça me botte pas trop. Vu qu'à côté de ça, effectivement, je fais encore fermenter de l'hydromel, du cidre avec pomme poire coin, pareil, tout issu d'arbres sauvages, ce que je trouve, quoi. Donc ouais, non, mon truc c'est plus la fermentation que le vin ou la bière. Et c'est pour ça que je prends très peu de vignes. Au final, on est peu en Alsace. Bon, alors après, ça fait aussi partie du visage de la région. C'est difficile. L'accès à la terre est difficile. Mes parents sont pas vignerons. Mes parents n'ont pas de vignes, n'ont pas de terre. Je suis même pas alsacien. Je suis né à Besançon, donc je suis franc-comtois. Je suis ici depuis un moment, mais c'est pas ton passage en Alsace. Enfin, c'est pas la longévité du moment où tu habites en Alsace qui rend la terre accessible. Non, je me définirais pas comme ça. Plus, tout ce qui peut fermenter, j'essaye. Voilà. La dernière marche, c'est le schnapps. C'est une longue marche administrative au niveau de la douane. Hop, on verra comment ça va se passer pour la suite, mais je fais fermenter ce qui passe, en fait. Là, franchement, pour l'instant, je pense avoir tout essayé. J'ai même essayé de faire cette année un pétnat de fruits. Donc, que des fruits, macérés ensemble, pressés et mis en bouteille. Finalement, c'était pas une grande réussite. Je l'ai assemblé avec une bière pour essayer de sauver le truc parce que c'était trois cides, trois mers pour moi. J'essaye aussi majoritairement de faire des produits qui me plaisent, en fait. Tu vois, je surfe pas sur la demande d'un hypothétique marché en bière et tout, machin. Moi, j'avais envie de boire ça, j'ai fait ça. Voilà, point. Pareil pour l'hydromel, on m'a présenté le truc et tout. J'ai dit, ah putain, ça pourrait vraiment être intéressant. Donc au final, c'est juste de l'eau et du miel. Bon, voilà, il n'y a rien de plus. Je le dose très peu, ça fait 8 degrés d'alcool et voilà, ça se boit. Et tant que ça me plaît, voilà, c'est l'objectif.
Au niveau de ta clientèle, c'est d'abord les gens à qui tu vendais du vin, à qui t'as proposé ces bières. Est-ce que c'est aux copains? Est-ce que c'est le bouche à oreille?
Alors, officiellement, les bières, j'ai commencé à les sortir depuis vraiment très peu de temps. J'ai fait un salon là à Mulhouse, donc le salon brut, où j'ai présenté ces bières-là. C'est la première fois que je les sortais. Qui va acheter les bières? C'est une excellente question, mais pour le vin, je travaille majoritairement à l'export pour l'instant. Pas mal de cavistes strasbourgeois aussi, où je suis présent un petit peu sur une adresse à Mulhouse aussi. Enfin bref, mais majoritairement c'est l'export. Je ne me prédestine pas nécessairement à une clientèle très, beer geek, amateur de bière et tout machin. Je pense que majoritairement c'est... c'est un peu triste à dire, mais la majeure partie va partir à l'export parce que c'est plus facile pour moi. Enfin, tu vois les locaux dans lesquels on est, je fais pas d'accueil au public ici, donc c'est pas comme si c'était un caveau ou le magasin d'une microbrasserie où tu pouvais venir une, deux fois par semaine faire le plein et tout machin. Non, j'ai trop de taf dans les vignes dans les vignes à côté, au bureau machin pour tout boucler, donc j'ai pas le temps de faire du présentiel pour l'accueil du public. Les cavistes avec lesquels je travaille et les adresses avec lesquelles je travaille à Strasbourg, je sais, m'attendent au tournant sur les bières. Parce que, en résumant, la clientèle du vin nature, elle connaît ce type de produit et elle en cherche. Pas pour en boire tous les jours, mais pour en boire, tu fais une soirée, bon, tu ramènes une ou deux gueuses histoire de rincer la bouche à tout le monde une fois que, vous avez bu je sais pas combien de bouteilles de vin. Ça remet droit, ça remet le palais droit. Majoritairement export et ensuite, les magasins spécialisés, les mecs qui me suivent. Ouais, j'ai énormément de collègues vignerons aussi qui, viens, échange-moi un carton, viens, je te prends deux cartons, machin. Donc, à part le salon, j'ai rien vendu. Mais ouais, ça va venir, je pense, dans cet ordre-là. Export, magasin spécialisé, et après, ouais, des vignerons à droite à gauche, quoi. Vu que c'est fractionné sur 6 cuvées, j'en ai 3 sur 6 où j'ai à peu près 250 quilles. Les autres, je dois en avoir 150 à peu près, quoi.
Et tu mets tes fruits en tonneau?
Alors, je fais jamais macérer les fruits en tonneau. Jamais de la vie. Horrible. Jamais de la vie, pour deux raisons techniques très simples. C'est que déjà, le trou de bonde, il est microscopique. Je veux dire, ça fait 4 cm 5, je crois, de mémoire. Et alors après, pour les ressortir, les fruits, c'est impossible. Techniquement, ça, pour moi, c'est pas possible. Surtout, la manière dont, on va dire, le taux de fruits, le pourcentage de fruits dans les bières. Là, j'ai vraiment 3 bières où il y a le même fruit. J'en ai une avec des prunes sauvages, une avec des quetschs, une avec des cerises. Si tu veux, la prune sauvage, je suis à 300 grammes de fruits par litre de bière. La quetsch et la cerise, je suis à 500 grammes de fruits par litre. Donc impossible, je perdrais beaucoup trop de place dans le tonneau et ce serait juste catastrophique à sortir, quoi. Vraiment un cauchemar. Je brasse en novembre, pour l'instant c'est le roulement que j'ai trouvé, parce que j'ai pas de place, je veux dire le local c'est un cauchemar aussi d'arriver à faire la gymnastique entre le vin et la bière. Donc je brasse en novembre, je mets en barrique et ensuite je soutire les barriques au fur et à mesure de la saison des fruits dans des cuves fibres, des toutes petites cuves fibres, j'ai une 300 litres et une 500 litres à chapeau flottant. Je mets la bière dedans et je balance les fruits au fur et à mesure de la récolte. parce que je suis seul à ramasser les fruits, parce que j'ai pas de salarié, parce que la structure est toute petite. Donc je ramasse tout seul ça prend du temps. Tous les fruits sont rajoutés au fur et à mesure. Et j'ai fait entre 2 et 4 semaines de macération pour les fruits, quoi.
Grosse proportion de fruits, parce que 500 grammes par litre, ça commence à...
Ouais. J'ai fait des essais avec moins de fruits, beaucoup moins de fruits. Sur la toute première que j'ai fait, pareil avec les prunes sauvages, c'était bien. Mais en 2020, j'ai fait vraiment mon premier gros essai avec les quetch. Et il se trouve que, 2020, c'était vraiment l'année mais pléthorique en Alsace pour les fruits, surtout pour les quetch. Les arbres cassaient tellement il y avait de fruits. J'ai pris tous les fruits que j'ai pu trouver et il se trouve que ça faisait 500 grammes par litre. Donc 2020, la bière était fantastique. Donc du coup, en 2021, j'ai reporté ce même schéma-là et c'était une manière rigolote pour moi de me dire mon modèle, l'exemple, l'inspiration, c'est Cantillon. Sur les grandes cuvées, ils sont à 300 grammes par litre. C'était une manière de dire moi je mets 500 grammes pour être encore au-dessus, tu vois. Voilà. C'est l'idée, mais après la quantité de bière va dépendre de la récolte des fruits. Là cette année, les cerises c'était vraiment pas ouf. Il y a eu beaucoup de gel. Cette année les cerises il y a beaucoup de cerisiers qui ont craqué quoi. Hein. On va dire que les variétés précoces elles ont survécu parce que la vague de froid, la vague de gel est arrivée tardivement. Ceux qui avaient déjà fini de fleurir, il y a eu des fruits. Ceux qui étaient en plein fleurissement pendant les gelées qu'on a eu en avril, ça a cramé toute la récolte. Donc j'aurais aimé faire plus que 140, je crois, bouteilles de cerises, mais c'est pas le cas. Donc, quoi. Et les cerises, ça prend un temps fou à ramasser. Je scoupe pas les arbres, je cueille les fruits, je ramasse pas les fruits par terre, je cueille les fruits. Ça prend un temps fou. Surtout sur des arbres qui sont sauvages et qui n'ont pas été taillés pour cueillir les fruits à portée de main sans avoir à monter sur des escabeaux ou même à monter dans l'arbre. C'est un peu compliqué, quoi.
Tu mets les fruits entiers ou alors tu vas les dénoyauter pour les mettre à macérer?
J'ai entendu beaucoup de grand-mères avancer l'argument que quand tu fais une confiture, il faut jamais enlever le noyau parce que c'est là que t'as le plus d'arôme et le plus de goût. C'est pareil. Je broie les fruits, les cerises à la botte dans une caisse parce que ça marche bien. Les quetch, j'utilise un vieux fouloir à raisin et c'est mis entier avec les noyaux, quoi. Ouais, le moment de les sortir de la cuve, c'est pas une partie de plaisir. La prune, la quetch et la cerise, c'est des fruits qui font énormément de pectine, de pulpe. Donc c'est très difficile à séparer. C'est pour ça que j'essaye d'attendre un maximum de temps. Une fois que j'ai enlevé les fruits, de laisser vraiment sédimenter au maximum. Mais je suis pas équipé pour refroidir les cuves, donc ça pourrait aller plus vite, effectivement. Si je descendais la bière avant prise de mousse à 4 degrés pendant une semaine, ça sédimenterait nickel. Hein. Il n'y aurait presque pas de dépôt. C'est pas le cas, donc... Je galère un peu, c'est pour ça que les bières ont quand même un profil assez trouble avec une turbidité assez marquée, quoi. Sinon je laisse les noyaux et puis à 500 grammes par litre, les cerises, 80 kilos de cerises à dénoyauter, ce serait juste un enfer, quoi. Non, surtout qu'en plus, j'utilise pour les cerises, c'est pas le cas pour les quetch ni pour les prunes, mais pour les cerises, c'est vraiment un mix, doit y avoir une dizaine de variétés différentes, dont des cerises où il n'y a pas grand chose de plus que le noyau, quoi. Tu vois, c'est pas des grosses cerises bien charnues. Ou tu la coupes en deux, tu peux enlever le noyau et faire je sais pas un clafoutis ou une tarte avec. Non, là si t'enlèves le noyau, il reste vraiment plus grand chose, quoi. Donc autant tout mettre, quoi.
Tu parles beaucoup de cueillir les fruits un peu dans les vergers, ce genre de choses. Tu t'es pas posé la question par exemple de chercher du houblon sauvage?
Oui, j'ai déjà ramassé du houblon sauvage là sur le secteur de Siegolsheim, donc au bord de la Weiss, parce que en Alsace majoritairement les houblons tu les trouves facilement au bord de la rivière, donc au bord de la Weiss à Siegolsheim et au bord de la Lohr à Herrlisheim, près Colmar. Ouais, j'ai fait ça, ramasser du houblon. Donc on va pas se mentir, c'est un peu chiant à ramasser, pareil parce que ça pousse sauvage dans les arbres. C'est un peu chiant à manucurer aussi, une fois que t'as tiré des grandes lianes là, ça se fait. Mais alors le problème du houblon sauvage, c'est que chaque pied de houblon sauvage va te donner un profil différent, ce qui sous-entend que t'es obligé de faire un essai, voire deux, sur deux millésimes différents pour être bien sûr que ce pied-là te donne vraiment régulièrement soit le même pouvoir amérisant, soit le même pouvoir aromatisant. Et sur les bières que j'ai fait, que j'ai essayé avec ce houblon-là, j'ai pas du tout été convaincu ni par le pouvoir amérisant, ni par l'aromatique. L'aromatique me plaisait pas, et franchement, vu la charge de travail que ça incombe de récolter et de manucurer, sachant que en plus, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que autant les fruits, c'est rigolo parce que ça tombe plutôt bien parce que les fruits, que ce soit bon, les cerises c'est un peu chiant, juin c'est la période du palissage, pour nous c'est un gros coup de fouet, c'est la course dans les vignes, mais les prunes et les quetches, les prunes sauvages c'est juillet, les quetches c'est août. Bon, là dans les vignes il n'y a plus grand chose à faire. Le houblon, la récolte c'est septembre, donc c'est en plein pendant les vendanges, donc là c'est juste impossible, j'ai beaucoup trop de taf à côté pour me prendre, enfin tu vois, tu bosses déjà 6 sur 7 ou 7 sur 7 pendant les vendanges, c'est pas encore pour aller prendre une après-midi ou une journée pour aller ramasser du houblon, quoi. C'est... Donc non. Donc ça, je le ferai plus. Le jour où je serai installé correctement dans un ancien corps de ferme, où j'aurai réussi à poser mes fesses et mes valises quelque part, pourquoi pas envisager une culture de houblon en prenant, oui, effectivement, des boutures ou même de déterrer des pieds. Hein. Je veux dire, ça pousse un peu comme du chien d'an, quoi. À partir du moment où ça a la bonne configuration, où t'es au bon endroit, parce que tu peux pas faire pousser du houblon n'importe où, pas dans n'importe quelle terre et pas dans n'importe quel climat, mais à partir du moment où ça a bien pris, pourquoi pas envisager une culture d'un truc qui serait intéressant. Mais après, comme dit, vu que je travaille beaucoup avec les fruits, tu vois, avec les fruits et avec l'acidité, j'ai pas besoin du côté amérisant du houblon et j'ai pas besoin du côté aromatique, vu que bon, bah, tout est amené par la fermentation et par la macération de fruits derrière, quoi.
Concernant le matériel, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai envie de dire, tu as deux cuves de 150 litres, donc tu fais des doubles brassins, mais en parallèle, en fait, pour sortir 300 litres de mou à chaque fois.
Pour sortir 200 litres de mou à chaque fois, parce que vu que c'est des cuves de 150 litres, pendant l'empâtage, je mets 100 litres de flotte dedans, et après, je mets 27 kilos de malt. Une fois que tu as 100 litres plus 27 kilos de malt, la cuve, elle est déjà bien pleine. Je pousse pas plus loin. Deux fois 100 litres par brassin, donc ça fait à peu près une barrique. Hein. Voilà, on va pas se demander une barrique, c'est 125, 128, ça dépend où tu les récupères. Deux casseroles de chauffe avec deux réchauds. J'ai une troisième casserole qui est la première avec laquelle j'ai brassé, qui fait 90 litres, qui me sert à chauffer l'eau pour rincer les drèches. Et à côté de ça, la filtration, c'est à chaque fois deux seaux en plastique imbriqués l'un dans l'autre avec le brewbag par-dessus. Et voilà, en fait, ça s'arrête là. Fermenteur, c'est barrique.
L'outil dans le brassage qui va être le plus important, finalement, c'est tes barriques. Et au niveau du sourçage des barriques, est-ce que tu vas les chercher un peu à droite, à gauche, en fonction des vignerons que tu vas rencontrer ? Est-ce que tu recherches des barriques en particulier, ou est-ce que tu recherches des profils de barriques ?
Alors, non, pas du tout. J'irais même jusqu'à dire que, pour moi, la barrique, c'est comme le malt. C'est vraiment un outil de base neutre qui ne doit pas nécessairement influer sur la typicité finale du produit. Je t'explique qu'en deux mots, c'est très simple. Tout part de l'itinéraire technique. Bon, les barriques, moi, je les récupère soit chez un vigneron, soit dans une cave cop. En fait, chez des gens qui ont des gros turnovers de barriques au niveau du vin, des barriques qui ne boisent plus assez pour eux, moi, je les récupère parce que moi, je ne cherche pas sur mes vins à avoir un côté boisé, surtout pas. Ça, pareil, c'est affaire de goût, mais c'est vraiment pas mon truc. Donc, je récupère des vieilles barriques 2005, 6, 7, 8, des trucs, des barriques qu'on a vu 10, 12, voire 15, 20, avant que je mette mes vins dedans. Si tu veux, les barriques que j'ai utilisées pour faire toutes les bières cette année en 2021, c'est des barriques que moi j'ai déclassées, dans lesquelles j'avais déjà mis du vin à moi en 2019. Mais par contre, là j'ai brassé au mois de novembre 2020, j'ai entonné en barrique, soutiré dans la saison des fruits de 2021, donc juin, juillet et août. À partir du moment où la barrique est vide, c'est comme pour le vin, j'ai peu de matériel pour m'occuper de ça et j'ai pas du tout envie de jouer avec ça, parce que j'ai déjà expérimenté plein de trucs sur la conservation des barriques pour éviter d'avoir à les mécher, c'est-à-dire à brûler une mèche de soufre dedans. Je suis pas équipé, ça me fait chier à chaque fois d'aller taxer du matos à droite à gauche, que ce soit machine à vapeur pour stériliser les barriques ou canne à UV, pareil, pour stériliser les barriques. J'ai des collègues comme ça qui utilisent ça pour le vin. Peut-être à terme, je passerai à la canne à UV parce que c'est pas mal et ça demande moins de matériel et moins de manutention que de les passer à la vapeur. Mais là, pour l'instant, si tu veux, quand je soutire la barrique et que je fais passer la bière de base dans une cuve fibre pour faire macérer les fruits, à ce moment-là, la barrique, je la rince à l'eau et je la mèche. Donc, si tu veux, je tue systématiquement la flore présente dans la barrique. Comme ça me permet à chaque fois de retravailler sur un nouveau levain en novembre d'après, parce que la barrique, du coup, elle va rester vide de juin, juillet, août jusqu'à novembre. J'ai déjà essayé de rincer des barriques à l'eau, de les mettre à l'envers avec un mouchoir pour pas qu'il y ait des petits moucherons qui rentrent dedans. J'en ai perdu pas mal, des barriques comme ça, parce que ça sent le champignon après. Tu vois, c'est pas un problème de volatile, ça sent pas la vole, ça sent vraiment le champignon, quoi. Et je peux pas prendre le risque de mettre un truc là-dedans et que ça marque en goût champignon sur une bière, j'ai trop peur. Et puis bon, ouais, ça fait quand même chier de foutre 225 litres de produits en l'air à l'égout, parce qu'il y a une déviance aromatique. Vraiment, barrique, matériaux de base, méché à chaque fois, tu tues tout le monde et tu refais quelque chose d'autre. Il y a autre chose aussi qui me fait beaucoup peur sur le fait de remettre un brassin dans une barrique où il y a déjà une flore qui est installée. C'est un problème que j'ai rencontré beaucoup en 2019 et en 2020 sur beaucoup d'essais de bière, c'est la graisse. Ça, c'est rédhibitoire pour moi. Hein. Encore sur certains vins, bon, allez, sur certains vins, des fois, ça me dérange pas, ça dépend de l'intensité. Mais sur la bière, c'est juste impossible, quoi. Et j'ai graissé beaucoup de cuvées de bière. Si tu veux un exemple très concret, un jour, je fais un brassin et je me dis, la question, la problématique, c'était, ok, comment je vais réussir à sortir des bières aussi acides que Cantillon ? C'est pas compliqué, en fait, j'ai pris une Cantillon fraîche qui venait d'être mise en bouteille et j'ai ensemencé mon brassin avec ça. C'est instantanément parti en graisse. Mais instantanément parti en graisse.
Quand tu dis parti en graisse, tu peux peut-être t'expliquer pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du terme ?
Techniquement, si je ne dis pas d'erreur, que dans le vin en tout cas, c'est des protéines qui se donnent la main sous l'impulsion de certaines bactéries lactiques. Donc ça te donne un produit qui est épais, comme si tu te versais de l'huile d'olive dans une cuillère, quoi. Et ça, ça c'est pas possible. Parce que alors déjà, sur un vin, c'est gênant. Mais alors sur une bière, vu que tu as les bulles en plus, c'est vraiment particulier d'avoir une bière graissée en bouche. Pour moi, systématiquement, c'est quand j'ai utilisé un produit déjà terminé dans le moût brut. Parce que je pense que les dernières souches de bactéries actives dans la bière influencent les protéines pour que les protéines coagulent en quelque sorte. Voilà. Je pense que moi, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Je n'ensemencerai plus un brassin frais avec une bière déjà terminée qui a eu une piqûre lactique. Logiquement, c'est pareil pour les barriques. Vu que les dernières souches de levure que tu vas laisser, enfin de bactéries et de levure que tu vas laisser dans la barrique, c'est au final, c'est celles qui, pour moi, sont responsables de la graisse. Donc, ouais, j'évite.
Au niveau de ta gamme, t'as 6 bières, c'est bien ça ?
Cette année, j'en ai fait 6. Sachant qu'il y en a 4 qui sont revendiquées en gueuse d'Alsace, et 2 qui sont revendiquées en boisson alcoolisée. Parce qu'il y en a 2 où c'est plus des sauvetages de produits qui ne me plaisaient pas que des bières classiques. Oui, effectivement, j'ai 4 bières. J'ai une blonde, ensemencée avec des lits de vin blanc, dis-moi en barrique. J'ai une à la prune sauvage, 300 grammes par litre, une à la quetsche, 500 grammes par litre, et une à la cerise, 500 grammes par litre. Et après, les deux autres, si tu veux, ça, c'est moitié cidre, moitié bière, avec dessus une macération de houblon sauvage de 8 mois et macération de cerise de 1 mois. C'est juste pour essayer de... J'avais une barrique de cidre qui ne me plaisait pas. C'était plat, ça manquait d'acidité, il n'y avait pas de profondeur. Vraiment, ça n'avait pas d'intérêt de faire la prise de mousse sur ce cidre-là parce que ça aurait cruellement manqué de fraîcheur et d'acidité, à mon goût. Donc, j'ai fait macérer du houblon pour essayer de ramener un peu de la structure du corps de l'amertume. Derrière, j'ai mis des cerises dedans. Et après, j'ai assemblé avec une jeune gueuse vraiment de 1 mois. Tu vois, genre de 1 mois, 1 mois et demi. Vraiment juste ça pour ramener de l'acidité. Le résultat est plutôt pas mal, moi j'aime bien. C'est vrai que l'aromatique du houblon est très marquée, en même temps 8 mois de macération, ça, houblon sauvage, donc des têtes dans un sac pendant 8 mois, lestées avec une pierre pour que ce soit au fond et pas à la surface. Donc ça a marqué, c'est clair. Hein. Donc moi ça me va. En tout cas, ça me plaît beaucoup plus que le cidre de base que je trouvais platissime, quoi. Et la deuxième boisson alcoolisée, c'est l'essai de pétillant naturel de fruits que j'ai dû assembler une fois pressé. Donc il y a un mois, il y a même plus qu'un mois, il y a cinq grosses semaines de macération sur les fruits. Il y a de la prune sauvage, de la quetsche, de la cerise, de la pomme, de la mirabelle, tout ça macéré sans eau de source. Et après, j'ai décidé d'assembler de nouveau avec une jeune gueuse, histoire de... C'est paradoxal, mais histoire de baisser l'acidité et de baisser l'amertume. Parce que c'était trop acide, trop amer, c'était imbuvable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le produit qui, pour moi, est le plus difficile à boire, ce serait celui-là. Autant les gueuses que j'ai fait avec les fruits ou la blonde, à deux, on ouvre une bouteille, on la tombe facilement. Autant celle-là, même moi... Vaut mieux être 4 ou 6 sur la bouteille, quoi. Parce que ça a tendance vraiment à déchausser les dents, en fait. C'est très, très acide, quoi.
Tu parles beaucoup de prise de mousse. Et justement, souvent, on va retrouver sur des bières barriquées ou des profils assez plats. Or, toi, tu recherches vraiment un profil, une pétillance assez fine, assez pointue. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu as eu du mal à trouver, cette prise de mousse sur ce type de produit, ou ça a été plutôt facile ?
Je cherche encore la prise de mousse. Si tu veux, pour l'instant, entre 2020 et 2021, 2021, il y a 4 procédés de prise de mousse que j'ai vraiment essayé avec des résultats très concluants. Le premier, c'est prise de mousse comme un pétillant naturel. C'est ce qu'on fait dans le vin quand on veut pas faire d'écrément. Donc, c'est-à-dire, en fait, tu mets en bouteille avant la fin de la fermentation. Et ça finit dans la bouteille. Et donc, l'effervescence vient du CO2 qui est capturé dans la bouteille de la fin de la fermentation. Donc là, c'est prise de mousse comme un pétillant naturel. T'as rien à rajouter. J'ai essayé en sucrant avec du miel, qui est une autre technique. Hein. Une fois que ton brassin est sec et déposé, ça dépend si t'as mis des fruits, si t'en as pas mis, enfin peu importe, avec du miel, parce qu'il m'en restait d'une session d'hydromel. Ça a mis du temps à prendre la mousse, plus de temps que les autres. Je suis pas sûr de le refaire, mais je sais quand, si jamais je suis coincé et qu'il faut que je sucre un truc vraiment vite fait, le miel, ça marche. J'ai sucré avec du brassin frais, c'est-à-dire que tu vois, c'est bon, j'ai fini mon process, j'ai fait macérer mes fruits, j'ai enlevé mes fruits, j'ai fait sédimenter la bière, donc j'ai attendu une bonne quinzaine, une 3 semaines que ça sédimente, j'ai soutiré, c'est prêt. Je refais un brassin dosé avec beaucoup de malt dedans, plus de malt que le brassin classique pour avoir vraiment, pour remonter la densité quoi. Et je mets ça et je mets en bouteille, j'assemble et je mets en bouteille. Ça a bien fonctionné aussi, j'ai pas de pas de graisse, j'avais un peu peur de la graisse, hein, mais bon, pas de graisse, c'est bon, pour l'instant ça fonctionne, pas de graisse, pas de brette, ça marche. Et l'effervescence est plus que satisfaisante. Et la dernière, les dernières que j'ai essayées, c'est les dernières bières, c'est les bières de août, c'est celle avec la quetch, dernière bière qu'il fallait que j'en semence, je l'ai fait avec du jus de Gewürztraminer, donc jus de raisin frais. Voilà, je suis allé chercher un peu de raisin dans mes parcelles, j'ai pressé, j'ai fait monter la densité avec ça, j'ai mis en bouteille, voilà, prise de mousse. Donc ça fait 2 techniques de prise de mousse différentes, donc celle comme un pétillant naturel où tu n'attends pas la fin de la fermentation et tu mets en bouteille avant la fin de la FA, ou alors tu resucres avec quelque chose qui n'est pas du saccharose industriel, soit le miel. Mais le miel, je m'en méfie énormément parce qu'en travaillant avec l'hydromel, je sais que le miel, il y a une partie du sucre contenu dans le miel qui est... il y a plus d'ose que dans le glucose ou le fructose. C'est plus difficile pour les levures à découper et à faire fermenter par la suite. Donc, c'est probablement sur ce produit-là où il restera, où tu vois, tu auras cette sensation, comme sur certaines bières, tu sais, avec des bières vraiment épaisses où il reste des sucres qui sont non fermentissibles. Bah, le miel contient des sucres non fermentissibles parce qu'ils sont trop complexes pour les levures et même pour les bactéries à être découpés puis fermentés. C'est vraiment en dernière urgence, c'est vraiment en ultime urgence.
Et maintenant, la question qui fâche, si demain je veux aller acheter une de tes bières, où est-ce que je peux aller?
Bah nulle part. Nulle part. Qui, en professionnel, a acheté de la bière récemment? Bon, il y en a en Belgique, effectivement. C'est paradoxal, hein, mais il y a un importateur belge qui m'a pris des bières. Pas grand-chose, mais suffisamment pour pouvoir en proposer. Et sinon, un autre professionnel... Si, il y a les mecs d'Épinal, c'est des cavistes. C'est un caviste de vin nature à Épinal. Ça s'appelle Raisin. Voilà, avec un Z. Eux, de mémoire, ils m'ont pris des bières. Est-ce que c'était pour leur consommation personnelle? Est-ce que c'était pour en distribuer? J'en ai aucune idée. Parce que le brut, le salon, c'était vraiment c'était la foire. Je me suis fait éclater au salon. J'ai vraiment eu très peu de temps pour parler avec les gens. À l'avenir, probablement avec les gens avec qui je travaille déjà, donc majoritairement sur Strasbourg. Sur Strasbourg, au niveau du vin, je travaille avec Jean Valche, qui est caviste au Fil du Vin Libre, un peu une institution de vin naturel à Strasbourg, avec Benoît de l'Œnosphère, qui est aussi un autre caviste qui fait vin nature à Strasbourg. Donc je pense que c'est vraisemblablement 2 adresses où les bières finiront à un moment ou à un autre. Et sinon, je sais que les mecs du Garde-Fou m'ont pris du vin, ont goûté la couette de 2020 et m'ont dit ouais, ça on est intéressé, le jour où c'est bon c'est prêt tu nous fais signe. Là j'ai un peu de taf, le brassin et tout machin, mais en termes de commercialisation oui, ce sera à Strasbourg, certainement dans un de ces trois là ou chez ces trois là je sais pas encore, on verra, ça va dépendre d'eux, ça dépend pas vraiment de moi en fait.
Par exemple, pas de vente directe, tu vois, des gens qui écouteraient l'épisode, qui s'abonnent au compte Instagram et qui disent putain je veux t'en acheter, est-ce que toi t'es en capacité de faire de la vente directe, ou est-ce que même si jamais il y a des distributeurs qui seraient intéressés, est-ce qu'ils peuvent éventuellement te contacter, ou pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt, je dirais.
C'est un peu compliqué pour moi, la vente directe, hein, parce que j'ai pas les infrastructures pour accueillir et que j'ai pas le temps. En fait, c'est pour ça que majoritairement j'envoie mes vins à l'export, c'est parce que j'ai pas le temps, tu vois, d'avoir du présentiel ici à la cave ou même au stock pour recevoir des gens, faire des dégustes. Je le fais de temps en temps, mais ça reste vraiment rare. Donc non, ouais, la vente directe, c'est pas, on va dire que c'est pas ouf. Si vente directe, il faut qu'il y ait, ce sera par l'intermédiaire de salon, comme il y a eu à Brut. Après, je fais quand même quelques salons en Alsace. Il y a moyen de me mettre la main dessus, que ce soit... on verra l'année prochaine, mais peut-être les vins libres... les vins libres, on verra ce qui se passe l'année prochaine. Il y a Brut à Mulhouse. Jusqu'à maintenant, j'ai fait un petit salon qui s'appelle Vertige Vineux à Ostheim, juste dans la région colmarienne. Il y a la Sommerfest, qui n'est pas vraiment l'endroit où on fait goûter de la bière et où on, encore moins où on en vend. Mais voilà, on peut mettre la main dessus en Alsace, il n'y a pas trop de problème.
Donc en fait, il va falloir s'armer de patience, plutôt voir en Alsace.
Un peu de patience pour la bière. Un peu de patience, mais ce sera à Strasbourg prochainement, je dirais début d'année, allez, le temps que tout se mette en place. Quoi. Début 2022, ça devrait être dans les tiroirs. Quoi.
Ça marche. Bah, écoute, merci Emilien de m'avoir reçu aujourd'hui dans... Ouais, c'est ta cave, on peut dire, non ?
C'est ça. Cave de vinif. C'est ici que j'ai vinifié 2020 et 2021. La cave de 2019 était à Soulsmat. Mais ici, c'est ça. Cave de vinif.
On va maintenant attendre avec impatience que les bouteilles soient un peu plus disponibles et surtout plus facilement...
Ouais, plus facilement trouvables, effectivement.
Ça marche. Bah écoute, merci encore.
Merci à toi d'être passé. C'était un peu... Ouais, c'est vrai que c'était un peu surprenant. On m'a rarement sollicité pour ce genre d'exercice, surtout pas sur un sujet que je considère ne maîtriser que partiellement, quoi. Tu vois, je veux vraiment la technique de la bière, c'est en fait c'est plus des vinifications que des brassins, quoi. Voilà, clairement. Mais écoute, si le résultat me plaît et plaît aux autres, c'est bon, c'est gagné, quoi. Voilà.
Non mais laissez-moi enlever ma moustache et à bientôt sur le Tipeee.